Pierre ouvrons nos Bibles dans l'épître de Paul à Timothée. C'est la deuxième épître que nous étudions ensemble, 2 Timothée chapitre 2. Et mon texte aujourd'hui, c'est à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Et je voudrais vous parler de ce que c'est d'être apte à enseigner. Ici, l'apôtre Paul encourage Timothée par les paroles que nous sommes en train de lire, ces paroles inspirées. Et donc, ici, il y a du conseil effectif, non seulement pour Timothée, mais pour chaque serviteur de Dieu qui suscite pour prêcher l'Évangile. Et nous avons déjà vu comment le ministère de l'Évangile et comme un combat que nous devons combattre pour la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus. Et comment, comme l'athlète qui doit courir et combattre suivant les règles, quelles règles? Suivant les paroles de l'Évangile telles que l'Esprit les révèle ici dans les Écritures. Et puis, aussi, le serviteur du Seigneur est comme un laboureur. C'est du travail que nous devons sortir et cultiver la terre et semer la bonne semence de Christ et attendre à ce que Dieu lui-même donne la récolte. Tout dépend de lui. Alors ici, dans le chapitre 2 et le verset 22, lorsque Paul dit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse. » Il faut savoir qu'à ce moment-là, Timothée était un jeune prédicateur et Paul était âgé, avancé dans l'âge, surtout que cette épître à Timothée était la dernière qu'il devait écrire avant de lui-même être exécuté à cause de l'Évangile. Paul est mort comme un martyr à cause du Christ, à cause de cet évangile. Et donc, ce conseil qu'il donne Timothée, c'est dans le contexte d'être un jeune prédicateur quand il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Nous savons que lorsque nous étions jeunes, on avait pas mal de désirs et de convoitises. Et même fois, on agissait souvent dans la folie, la vanité de la jeunesse. Ça, c'est vrai, parlant de cette nature qui est en nous, mais encore ici, dans ce contexte, Paul encourage Timothée de ne pas réagir comme un jeune ou bien un novice avec les emplins de cette chair, surtout dans le combat, lorsque ceux à qui il prêchait, surtout les chefs religieux, c'est exactement comme nos jours, ils commencent à repousser contre le message du Christ que nous avons annoncé. Alors la tendance est de laisser la chair maintenant dompter et on réagit peut-être dans la colère ou bien d'une manière qu'après on regrette. Nous savons que c'est le Seigneur qui doit convertir les cœurs. Donc nous ne devons pas réagir selon les passions de cette chair contre ceux qui contredisent le message de l'Évangile. Ce n'est pas un combat physique que nous avons à combattre, mais un combat spirituel. Souvent je me pose la question, mais comment est-ce que c'était que Dieu, dans sa grâce, a converti mon cœur? Ce n'était pas avec la force des paroles, mais c'est par l'Esprit de Dieu prenant cette parole inspirée de Dieu, œuvrant dans le cœur qui a fait à ce que il a baissé mon cœur. Et je me suis soumis à la volonté de Dieu pour me reconnaître comme pécheur et maintenant regarder vers le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie seule comme mon salut. Donc c'est important de savoir le contexte chaque fois de ces versets. Fuis les passions de la jeunesse. Ce n'est comme si, ce n'est pas comme si Timothée sortait dehors et qu'il était en train de mener une vie mondaine ou d'impurité ou bien de lascivité et de sueur. Non. Cela n'est pas la manière qu'un enfant de Dieu agit, surtout un prédicateur de l'Évangile. Mais ici, quand il parle des passions de la jeunesse, c'est dans le contexte du ministère que nous ne devons pas agir d'une manière avec la colère, mais plutôt avec douceur, comme nous allons voir par la suite ici. Donc, quand il dit « et recherche la justice, la foi, la charité, la paix », notez « avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur ». Chaque mot ici est dans le contexte de Christ et de son évangile. Quand il dit « recherche la justice », il signifie là la justice du Christ. Lorsqu'on recherche la justice, c'est de ne savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On recherche la justice dans la prédication fidèle de l'Évangile, qui garde l'accent sur la personne de Christ et son œuvre accomplie. Et par Christ et son œuvre, nous prêchons que c'est de cette manière que Dieu est juste, tout en justifiant, déclarant juste ce que Christ est venu sauver, pour qui il a versé son sang. Donc voilà où nous devons concentrer notre ministère toujours. Pas en poursuivant les hommes selon la chair, mais rester sur Christ, quand il s'est écrit « recherche la justice ». Dans chaque mot qui suit ici, c'est Christ qu'on peut dire. Recherche Christ. Recherche à prêcher Christ par qui Dieu justifie les pécheurs et a justifié ceux pour qui Christ est mort. Et puis on continue. Cherche la foi. Cela ne parle pas d'une foi personnelle, mais en ce qui concerne la doctrine de Christ. C'est synonyme de la doctrine du Christ. Donc, en tant que prédicateur, jeune prédicateur, voilà ce qui doit animer notre ministère. La justice de Dieu en Jésus-Christ, la foi qui est révélée en Jésus-Christ, en ce qui concerne encore la manière que Dieu est juste tout en justifiant les pécheurs. Et puis, la charité ou l'amour. Au lieu de réagir dans la colère contre ceux qui s'opposent et qui opposent à l'Évangile, voilà, nous agissons dans la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et c'est un amour particulier pour des pécheurs que Dieu a élus. Donc nous devons, à travers nos ministères et la prédication, prêcher aux gens ce qui est le véritable amour de Dieu. Il y a un amour qui est prêché, qui est un amour général, et les gens disent que non, Dieu aime tous les hommes et les femmes, les enfants également. Ils ne savent pas que l'amour de Dieu est particulier, et c'est pour ceux qu'il a aimés depuis l'éternité. Et pour qui il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans le monde, payer leur dette, payer la dette du péché de ce peuple-là. Voilà l'amour, voilà la charité. D'abord, ça commence avec Dieu envers le pécheur, mais étant les objets de cet amour éternel en Jésus-Christ, cela détermine notre manière aussi de vivre dans le monde et de manifester cet amour envers d'autres qui appartiennent à Dieu et d'autres qu'il a choisi par sa grâce. Donc nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et puis, quatrièmement, la paix. Toujours, c'est ça que Paul dit à Timothée de poursuivre, ne se laissant pas emmené par les passions de la jeunesse, mais gardant son cœur par la grâce de Dieu sur ce qui est nécessaire, la justice de Dieu en Jésus-Christ, la foi, c'est la révélation du Christ à travers l'Évangile, la charité, l'amour dont Dieu nous a aimés, voilà ce que nous manifestons envers les autres, et puis ici la paix. La paix ici s'agit encore de la réconciliation avec de Dieu avec ce peuple que Christ lui-même a payé leur dette. Et donc la paix, c'est cette réconciliation, c'est à travers cette réconciliation avec Dieu, à travers la croix du Seigneur Jésus, que nous vivons. Et donc c'est ça que nous annonçons aux autres. Nous ne sommes pas appelés assez de garder les gens en paix et organiser la paix d'une manière ou d'autre pour que les gens s'aiment, non. Ici, il s'agit de cette paix déjà accomplie par Christ et cette paix dans laquelle les vrais adorateurs de Dieu s'approchent de lui. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu qui est saint et qui est juste si il y a d'abord cette réconciliation déjà accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons veiller à ce que cette paix soit la base de notre adoration et non seulement en reconnaissant comment Christ a réconcilié les pécheurs avec le Père, mais maintenant, cette paix entre nous, pour qui Christ a payé la dette. Nous ne devons pas chercher la paix avec le monde, il n'y en a pas. Mais nous cherchons, par la grâce de Dieu, cette paix à travers la prédication, ce que Dieu a choisi et pour qui Christ est mort, et que l'Esprit de Dieu a appelé à Christ. Et donc, cette paix qui est en Jésus-Christ, comme je disais, que ça soit la justice, que ça soit la foi, que ça soit la charité, que ça soit la paix, tout cela est en Jésus-Christ. Christ est notre justice, Christ est notre foi, Christ est notre charité, Christ est notre paix. Et cela, c'est ce que partagent ceux que Dieu a sauvés par sa grâce. C'est pourquoi il dit dans le verset 22, « Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur ». Nous ne pouvons pas avoir un cœur pur si ce n'est à travers l'œuvre de l'Esprit et le sang de Jésus-Christ. C'est l'Esprit par sa grâce en ouvrant les cœurs de ceux que Dieu a choisis pour quitter ce monde. Le cœur pur, c'est d'adorer Dieu dans cet Esprit et selon le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas purifier nos propres cœurs comme les gens s'imaginent. Avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur déjà lavé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous nous approchons de celui qui est assis sur le trône de la grâce de Dieu. Avoir un cœur pur, c'est de s'approcher comme tous ceux s'approchent pour qui Dieu a fait grâce, c'est sans mixture d'œuvre. On ne s'approche pas en imaginant qu'une partie de notre adoration dépend de nous et l'autre partie dépend de Dieu. Non, ça c'est de s'approcher d'un mauvais cœur, ceux qui s'approchent de cette manière. Mais voilà le fondement de notre adoration, le fondement de notre fraternité que nous avons en Jésus-Christ. Nous invoquons le Seigneur par la grâce de Dieu d'un cœur purifié par le sang de Christ. Et sans dépendre de quoi que ce soit, si ce n'est l'œuvre de Christ seul. Alors, voilà le contexte lorsque Paul dit à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. C'est en tant que prédicateur. Voilà les points clés que nous devons toujours insister là-dessus dans nos ministères. et continue à rechercher. Ça prend, par la grâce de Dieu, cette détermination, comme Paul a été aux Corinthiens, de ne pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et le prêcher comme toute la justice de Dieu, le prêcher comme la seule foi que Dieu approuve, le prêcher comme le mobile de tout ce que nous faisons à cause de son amour envers nous et à cause de cette paix qu'il a établie par sa vie et sa mort sur la croix. Alors dans ce contexte, vous voyez ce que Paul dit dans le verset 23, de repousser les discussions folles et inutiles. Une autre manière de le dire, c'est que tout ce qui n'est pas centré sur ce qu'il dit dans le verset 22 n'est que la folie et une discussion inutile, sachant qu'elles font naître des querelles. Je sais que en prêchant Christ de la manière que nous avons lu dans le verset 22, il y a des gens qui vont repousser cette doctrine, repousser cet enseignement, repousser cette prédication. Ils vont vouloir entendre autre chose, mais nous ne devons pas se laisser attirer par ceux qui s'opposent pour entrer dans des discussions qu'ils veulent invoquer, qui, comme Paul le dit, ne sont que des discussions folles et inutiles. Parce que la sainte doctrine concerne ce qui est souligné dans le verset 22. La sainte doctrine concerne Christ. Et nous avons toujours besoin d'entendre ce message de Christ et ne pas se laisser aller dans d'autres sens que les gens veulent que nous allions. Je sais que plus que vous prêchez, plus il y a des gens qui vont dire, mais est-ce que c'est tout ce qu'il nous faut? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'il nous faut connaître? Et la réponse est non, il n'y a pas d'autres choses. C'est Christ crucifié. Donc, des questions insensées et des questions ou bien des enseignements, les gens aiment poser des petites questions simplement pour satisfaire leur curiosité. Mais ces discussions ne sont que la folie et inutile en comparaison avec l'évangile, qui est la sagesse de Dieu, l'évangile qui est un mystère, et ça exige à ce que Dieu, par son esprit, continue à ouvrir nos esprits pour comprendre la doctrine de Christ, la personne de Christ, son œuvre. Nous devons être des étudiants durant toute notre vie de sa croix et de la manière que Dieu, dans sa sainteté, justifie les pécheurs. Voilà ce qui est nécessaire, de savoir que, à la fin, lorsque le Seigneur nous prend de ce monde, que nous avons, par sa grâce, cette foi solide, posée sur Christ, qui est pour l'éternité. C'est en comparaison avec sa gloire que nous voyons de plus en plus combien de fois cette discussion dans lesquelles les gens veulent nous entraîner ne sont que de la folie et une perte de temps. Et pire que ça, comme Paul le dit ici, ne font que naître des querelles, des divisions, des discussions. Et nous avons tous, à travers nos vies, entendu de telles discussions et, il faut dire, ont eu part à ces discussions et des débats qui en fin de compte sont une distraction de ce qui est nécessaire en ce qui concerne Christ. Donc cela est vrai dans le verset 23, non seulement dans le ministère public, dans la prédication de l'évangile, mais je dois dire même dans les discussions privées que ces choses ne sont pas utiles ni édifiantes et que ce qu'il faut pour l'âme et pour la gloire de Dieu, c'est Christ et Christ crucifié. Donc, c'est pourquoi nous ne devons pas prendre part. Il y a des gens à travers les années qui ont voulu que je débatte ce message de Christ dans le public et ils veulent que je débatte cela avec d'autres qui sont présents qui ne croient pas. Ça, c'est inutile. C'est à travers le message de Christ et Christ crucifié que Dieu daigne convertir les cœurs et non pas à travers des débats. Donc, que le Seigneur nous garde et qu'il nous soutienne de connaître autre chose que Christ et Christ crucifié. Mais en tout cela, dans le verset 24, c'est pourquoi Paul dit ici ce qui est le caractère d'un véritable serviteur de Dieu. Nous ne devons pas être connus dans le monde comme des gens qui aiment faire des querelles avec des gens ou les battre. Non. Il dit ici, dans le verset 24, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. » Exactement le contraste de ceux qui aiment discuter et avoir, faire naître des querelles. Mais plutôt, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Et voilà le titre de ce message, être propre à enseigner, apte à enseigner. Je crois que le sens là n'est pas seulement avoir les dons de pouvoir enseigner et la sagesse de Dieu pour pouvoir enseigner, mais être propre à être enseigné lui-même. Nous continuons à être des étudiants de Christ. C'est ça le sens du mot disciple. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un moment donné, ouais, je connais tout, donc je n'ai plus besoin à ce que ce soit m'enseigne. Chaque fois que j'ouvre cette Bible, c'est la parole de Dieu, j'ai besoin d'être nourri moi-même, à être enseigné par l'Esprit de Christ lui-même, afin de pouvoir maintenant l'annoncer à d'autres. Et donc, nous avons, de Genèse jusqu'à Apocalypse, cet enseignement de Christ. Et donc, nous devons être propres à enseigner, mais aussi doués de patience. Donc, le serviteur du Seigneur ne doit pas s'efforcer, mais être doux envers tous les hommes, apte à enseigner et patient. Il ne doit pas s'efforcer. Donc, nous ne devons pas nous imposer sur les gens. Souvent, je dis, si les gens ne sont pas en train de poser les questions, c'est que il n'y a pas de réponse à donner. C'est l'Esprit de Dieu, lorsqu'il œuvre dans les cœurs des auditeurs, qui vont commencer à poser de bonnes questions, telles que, comment est-ce que Dieu qui est saint, et juste, comment est-ce qu'il peut justifier un pécheur comme moi? Voilà une bonne question. Et souvent, quand on lit dans les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament et les Évangiles, nous voyons comment les gens se sont approchés de Christ avec un cri troublé, un cœur troublé, en demandant au Seigneur d'avoir miséricorde envers moi qui suis le pécheur. Voilà ce qui indique que c'est véritablement l'Esprit de Dieu qui œuvre dans un pécheur. Mais si c'est des questions comme les pharisiens posaient à cause de leur propre justice, et c'était évident que la manière qu'ils posaient les questions était en opposition aux enseignements de Christ. Et c'est là que nous voyons même fois notre Seigneur Jésus n'a même pas répondu. Il a continué sur son chemin, laissant cela à leur propre gré. Et c'est ainsi que nous devons aussi, en tant que serviteurs du Seigneur, agir. Nous ne devons pas nous efforcer de dire des mots sans profit. ou d'une manière litigieuse ou querelleuse et simplement continuer à montrer le doigt, si vous voulez, le Seigneur Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. S'il y a le péché qui doit être enlevé, quel que soit dans le monde où les pécheurs se trouvent, c'est à travers l'agneau de Dieu, c'est à travers son sang versé. Et pour ceux que Dieu lui-même a donné à son Fils, même avant les temps éternels. Alors nous devons, quand c'est écrit ici dans le verset 24, avoir de la condescendance pour tous. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui aiment se mettre au-dessus des gens et les traiter comme si ce sont eux-mêmes qui sont Dieu, mais pas un serviteur de Dieu. Ici, quand c'est écrit avoir la condescendance envers tous, nous devons être doux à tous les hommes, quelle que soit leur position dans le monde. Notre chair a tendance d'évaluer, de valuer ceux qui sont des gens dans la société qui sont plus importants. Et donc, nous essayons d'avoir leur faveur. Ça, c'est la chair, ce n'est pas l'esprit qui agit comme ça. Mais avoir de la condescendance pour tous, quelle que soit leur place dans ce monde, tous sont des pécheurs, tous ont besoin d'entendre ce message de Christ. Et donc, nous ne devons pas favoriser certains par rapport à d'autres, non. Le plus pauvre est dans le besoin d'entendre le message de Christ. Et nous ne devons pas prêcher à l'exclusion de ceux-là pour dire, ah, mais ceux-là n'ont aucune importance dans la vie, non. Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Même Paul a dit, dont il est le premier. Il y avait un temps où il se voyait au-dessus de tous. Maintenant, par la grâce de Dieu, il prend sa place comme le pire des pécheurs. Et donc, nous devons avoir la condescendance envers tous, qui qu'ils soient, et avoir cet esprit de douceur à travers l'évangile. L'évangile de la grâce doit être prêché d'une manière gracieuse, sachant la manière que Dieu nous a fait grâce, et donc dans l'espoir que cette même grâce soit envers ceux qui nous écoutent. Donc, apte à enseigner, montrant une volonté d'instruire même les plus ignorants et les plus obstinés. Il faut reconnaître que ce cœur est endurci contre l'évangile. Donc, c'est pourquoi nous devons avoir la patience, doué de patience. Le sens là est de supporter le mal des autres. Imaginons comment Christ a supporté la contradiction des pécheurs contre sa personne. Tel était mon cas. Si je dis que Christ est mort pour mes péchés, donc c'est mes reproches qu'il a pris sur lui. Même lorsque les gens criaient « crucifie-le, crucifie-le », ils étaient mes représentants. En criant tout cela, si j'étais là, j'aurais réagi de la même manière. Mais en tout cela, cela n'a pas empêché Christ de porter mes péchés. Et donc je vois en lui cette patience et cette grâce de pouvoir supporter mes péchés ayant pris ses péchés sur lui. Et même aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, régénéré par l'Esprit de Dieu, il connaît mes infirmités. Mais combien il est patient, il continue à être patient envers les pécheurs tels que nous sommes, dans toutes nos faiblesses. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 4, c'est écrit que nous devons nous approcher en tout temps dans nos besoins du trône de la grâce de Dieu afin d'obtenir la miséricorde, continuer à obtenir. Ce qui est sûr, c'est que tellement l'œuvre de Christ a satisfait à la justice de Dieu qu'il n'y a aucun péché qui puisse nous séparer de cet amour de Dieu. Donc, voyons la patience du Christ envers les pécheurs que nous sommes. Et c'est de cette manière alors que nous devons annoncer l'évangile à d'autres. Quelles que soient les contradictions, quelles que soient les oppositions, les adversaires contre la vérité, par sa grâce, nous ne devons pas être irrités ou provoqués ou même découragés. Et pour cela, s'abstenir de la défense de l'évangile. Non, quelles que soient les oppositions auxquelles nous devons faire face, nous devons savoir que c'est la grâce de Dieu qui nous rend patients dans cela. Et nous continuons doués de patience. Ce n'est pas dans notre chair, mais c'est le don de Dieu par sa grâce en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Paul dit à Timothée qu'il doit redresser avec douceur les adversaires. Voilà comment nous devons réagir dans l'espérance, notez bien, que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. D'où vient la repentance? Ça ne vient pas de l'homme. Laissé à l'homme, l'homme n'allait jamais se repentir. Et encore, le sens du mot repentir, comme Paul l'utilise dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20, se repentir, c'est d'avoir un changement de cœur envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Donc, lorsque l'Esprit œuvre dans le cœur, c'est l'Esprit qui donne cette repentance, avoir un changement de cœur envers Dieu, au lieu de s'opposer à Dieu tel qu'il est révélé ici, surtout dans sa souveraineté et sa sainteté, au lieu de continuer à vouloir poursuivre notre propre voie et l'adorer de la manière que nous voulons. Voilà, la repentance change tout cela. Et surtout en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, c'est la repentance égale la foi envers Jésus-Christ, où, au lieu de poursuivre nos efforts, ou bien de venir comme Caïn, voulait venir avec les œuvres de sa mère, maintenant, nous renonçons à tout cela pour regarder vers le Seigneur Jésus-Christ seul. Où il y a la repentance, il y a la foi. Ce n'est pas deux différents attributs. C'est la même chose. Se repentir, c'est croire en Jésus-Christ. Et se reposer en lui, son œuvre accomplie. Comme notre justice, comme notre foi, comme notre charité, comme notre paix. Tous ces attributs mentionnés dans le verset 22. Donc, pour être un serviteur de Dieu et réagir de cette manière, il faut d'abord soi-même être l'objet de cette grâce de Dieu. Et alors, en annonçant le message de l'Évangile envers d'autres, dépendre de Dieu de faire son œuvre. Parce que c'est écrit dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Le salut est de Dieu du début jusqu'à la fin. Aucune partie de ce salut ne dépend de nous. Si Dieu daigne leur donner la repentance envers lui et envers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, cela demande une œuvre de l'Esprit de pouvoir ouvrir les yeux spirituels et de se fier en aucune autre chose, si ce n'est l'œuvre de Christ accomplie par sa vie parfaite et accomplie dans sa mort pour les pécheurs que le Père lui a donnés.
Cela ne dépend pas de notre volonté.
Ceux qui disent que Dieu a tout fait, mais il attend maintenant à ce que vous, vous repentez, il ne prêche pas l'évangile. Il sait, c'est toujours dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà les deux aspects dont je viens de mentionner. La repentance, c'est un changement vers Dieu du cœur, mais aussi la foi en Jésus-Christ. Voilà ce qui signifie arriver à la connaissance de la vérité. La véritable connaissance de qui Christ est et pourquoi il est venu et ce qu'il a accompli par sa vie et sa mort et pour qui il a fait. Voilà la connaissance de la vérité. Mais cela ne dépend pas de la volonté de l'homme. Laissez à l'homme, il n'allait jamais croire, il n'allait jamais connaître Christ qui est la vérité. Mais c'est à travers la prédication fidèle de Christ que Dieu tourne les cœurs par sa grâce envers Christ. Heureusement, c'est Dieu qui fait ça. Mais c'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager en prêchant. Parce qu'il y a des années parfois qui passent et il semble que personne n'entend, personne ne se tourne vers Christ dans la vérité. Mais pour cela, nous ne devons pas abandonner alors l'évangile ou chercher autre moyen pour faire agir les gens, non. Ça, c'est la folie. Mais nous devons simplement continuer à prêcher, confesser Christ, annoncer Christ, toujours dans l'espérance, sachant que c'est Dieu qui donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alors que nous ne nous décourageons pas dans le ministère, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et puis, dans le verset 26, c'est ainsi que nous voyons comment Dieu donne cette repentance. C'est écrit, et que revenus de par leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. L'homme est incapable de se repentir de lui-même sans que Dieu ne donne cette repentance. Chaque âme est toujours piégée du diable et pris dans ses filets, ses pièges, comme des chasseurs qui prennent leur proie et avec leur filet, les oiseaux, ils deviennent captifs. C'est comme ça que chaque pécheur est né dans le monde. Ce n'est pas que les pécheurs sont nés purs et maintenant c'est le diable qui s'empare d'eux, non, c'est le contraire. Nous sommes nés dans cette nature pécheresse, dans ce monde, comme déjà esclaves du diable. Et impossible de nous-mêmes de nous en sortir. C'est comme celui qui a été pris du diable, des Gadarens, lorsque Christ a traversé la mer pour aller vers lui. Personne ne pouvait le dompter. Il vivait dans les montagnes et chaque fois qu'on essaie de le lier, il se déliait. Personne ne pouvait le dompter. Mais lorsque Christ s'est approché de lui, voilà, il a couru vers Christ et puis il s'est agenoué et a commencé désormais à adorer le Seigneur Jésus. Voilà un cas de quelqu'un à qui Dieu a donné la repentance, étant pris lui-même dans les pièces du diable, aucun homme ne pouvait le dompter, mais voilà, à sa simple parole, Christ a chassé le démon, et lorsque les gens sont venus pour regarder, ils ont trouvé cet homme assis, et maintenant habillé, où est-ce qu'il a reçu son habit? C'est du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est écrit « ayant son bon sens ». Auparavant, il était un fou qui courait de droite à gauche, mais maintenant, dans le Seigneur, assis, ça démontre le repos, habillé, Ça, c'est la justice du Christ pour lui. Et ayant son bon sens, l'Esprit de Dieu lui-même ayant changé son cœur pour connaître Christ et l'amener à la connaissance de la vérité. C'est un bon exemple. Mais laissés à eux-mêmes, les pécheurs ne peuvent pas s'en sortir. Le diable qui a fait chuter Adam dans son meilleur état, qui sommes-nous d'imaginer maintenant que, étant des pécheurs dépravés, que nous pouvons nous en sortir nous-mêmes de ces pièges? Mais c'est le Seigneur qui, par sa grâce et par son œuvre, sa toute-puissance, c'est lui qui fait dégager ceux qui étaient toute leur vie sous cet empire de Satan. Heureusement que le salut ne dépend pas de nous. Et heureusement, ce n'est pas à moi, en tant que prédicateur, de chercher à faire sortir les gens de leur piège et de leur péché. Non. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Et comment est-ce que nous pouvons savoir que Dieu a fait son œuvre, exactement comme c'est écrit dans le verset 26? Il revient à leur bon sens. Le bon sens, c'est maintenant de connaître le Christ dans toute sa gloire et se soumettre à lui. Et c'est lui, alors, qui prend cette volonté qui était auparavant soumise au péché et à la puissance du diable, mais maintenant, par sa grâce, soumis au Seigneur Jésus-Christ seul. Alors voilà le ministère, et voilà le sens d'être apte à enseigner. Ce n'est pas que le pouvoir dépend de nous, mais c'est la grâce de Dieu qui nous donne cette grâce, de pouvoir annoncer Christ aux pécheurs perdus. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qu'il a donné à son Fils avant les temps éternels. Il connaît ceux pour qui Christ est mort. Et c'est l'Esprit de Dieu maintenant, autant voulu par Dieu, qui amène et qui attire de tels pécheurs à lui. Donc, que son nom soit loué. Amen.